Les podcasts du Collège de France, littérature.
Bien, d'abord, je remercie tous ceux qui ont bravé la grève et qui sont là malgré les difficultés de transport. Et au moins, pour une fois, tout le monde est à l'aise et tout va bien. D'abord, un rappel pratique. Je rappelle donc qu'il n'y aura pas de cours ni de séminaire la semaine prochaine, 5 février, parce que je crains de ne pas être encore bien remis. Et le cours durera une semaine de plus jusqu'au 19. Le 12, il y aura cours, mais non séminaire. Et le 19, cours et séminaire avec comme invité M. Jacques Dallard. Donc tel est le programme des festivités. Donc la dernière fois, nous avons jeté un regard rapide sur la situation à la fois essentielle et ambiguë du pèlerinage au Moyen-Âge et sur la valorisation et en même temps la dévalorisation dont il peut être l'objet, sur les circonstances dans lesquelles il est réputé bénéfique, celles dans lesquelles il ne l'est pas, sur les catégories d'individus auxquelles il est recommandé, celles auxquelles il est interdit. Et nous nous sommes demandé, c'était pour cela que nous nous posions toutes ces questions, nous nous sommes demandé dans quelle mesure il faut voir dans La quête du Graal, enfin non pas le roman qui est désigné spécifiquement sous ce nom, mais le fait de quêter le Graal, une idéalisation chevaleresque et romanesque du pèlerinage, et dans quelle mesure La quête du Graal était autre chose qu'un pèlerinage. Et pour répondre à cette question, nous nous sommes proposés de la situer au regard des véritables pèlerinages, enfin véritables pèlerinages fictifs, que l'on trouve dans les mêmes romans où figure une quête du Graal. Car il existe de ces pèlerinages. Et nous nous proposions d'en examiner particulièrement deux ou deux et demi, voilà, bien qu'il s'agisse d'épisodes très connus et trop connus. Et une fois de plus, je tombe dans la banalité. D'une part, pèlerinage des chevaliers et des dames imité par Perceval le vendredi saint à l'ermitage du l'oncle ermite dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Je reconnais que ce n'est qu'à demi un pèlerinage, mais il en a cependant les traits essentiels. Et d'autre part, celui du roi Arthur à la chapelle Saint-Augustin au début du haut livre du Graal Per les Vos, dont notre orateur du jour tout à l'heure nous parlera avec compétence puisqu'il en est l'éditeur, le professeur Armand Strubel, et complété par le pèlerinage toujours du roi Arthur au château du Graal après sa reconquête par Per les Vos. Donc, dans le conte du Graal, ça, c'est un texte bien connu, le roman quitte Perceval pour suivre longuement les aventures de Gauvain et revient à Perceval une dernière fois en annonçant, quand il le quitte à nouveau, qu'il se passera longtemps avant qu'il en reparle. Mais il se passe en fait 3000 vers et le roman s'interrompt sans être revenu à Perceval. Et ce retour à Perceval au cœur de la partie Gauvain occupe les vers à peu près 6440. Donc un passage de 300 vers, alors que cette rencontre de Perceval et de l'oncle ermite, pour ce qu'elle apporte certes d'essentiel à la révélation des aventures du Graal, cette rencontre pourrait être bref, il se passe 300 vers, l'épisode occupe 300 vers, alors qu'il ne se passe presque rien, ce qui veut dire que c'est un épisode particulièrement important, hein, et ce qui se passe, c'est un pèlerinage, mais un pèlerinage tout proche, où la conversion compte plus que le cheminement. Alors, ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, dans ce chevauchement perpétuel de nos séances, qui n'est pas le chevauchement des chevaliers vers le Graal, mais le chevauchement de la maladresse de mon découpage du temps et des séances. Lorsque le poète revient à Perceval, c'est pour dire d'abord qu'il a perdu la mémoire et qu'il a même oublié Dieu et que pendant ce temps, 5 années se sont écoulées sans qu'il entre dans une église et sans qu'il adore une croix. Et j'avais dit, je crois, déjà la dernière fois, que... Ces 5 années étaient très remarquables parce que cela ne correspond pas au temps du roman d'autre part. Normalement, lorsqu'on a ce procédé si courant dans les romans de l'époque, nous appelons l'entrelacement, on quitte un personnage pour en suivre un autre, et puis on revient au premier, où les deux se retrouvent un peu plus loin, et le temps pendant lequel on suit le personnage B correspond à celui que vit pendant ce temps-là le personnage A. Tandis que ici, les aventures de Gauvin prennent quelques jours. Et il est même bien spécifié qu'il prenne quelques jours, puisqu'il est très pressé de se rendre à Escavalon pour répondre au défi qui lui a été lancé. Tout son comportement pendant les aventures que l'on suit, en particulier lors de l'épisode de la demoiselle aux petites manches, montre qu'il est pressé et qu'il est important pour lui de ne pas perdre une journée. Tout va très vite, tout se passe en quelques jours. On revient à Perceval et on nous dit 5 ans se sont écoulés. Et puis quand on revient à Gauvin, on est de nouveau 5 ans en arrière et on ne retrouvera pas Perceval. Alors le sens ultime de ce décrochement chronologique apparaîtrait évidemment si nous avions le fin mot de l'histoire et si le roman était terminé. Mais tel qu'il se présente, inséré au milieu de l'épisode Gauvin, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est que ces 5 ans n'existent pas. Ces 5 ans sont comme abolis. La perte de conscience de Perceval rend ces 5 années inutiles ou comme barrées de sa vie et barrées même du destin collectif des chevaliers de la Table Ronde et du royaume de l'Ogre au regard de l'aventure du Graal. Et je reprends là ces vers auxquels je faisais allusion et vous les avez sous les yeux, le début d'épisode, les vers 6143-6150. Percevos se compte l'estuaire, ainsi perdu la mémoire que de Dieu ne l'y souvient messe. 5 fois passa avril et mai, ce sont 5 ans traituit entier. Qu'il entra en moutier, ne Dieu ne sa croix adora. Non. Tout ainsi, 5 ans demeura. Pour ma part, là où si je peux, là, l'édition et la traduction de Charles Mellat sont vraiment remarquables. C'est pas une règle, mais moi, j'aurais mis un point après demeura. Et j'aurais clos cette insistance sur le temps passé et j'aurais rattaché « Personne relaissait-il mis la chevalerie ?» Je l'aurais mis d'autre part. Et nous allons voir pourquoi. Pendant 5 ans, il a oublié Dieu, il s'est oublié lui-même, mais pendant ce temps, il était un bon chevalier. Donc, pendant 5 ans, il n'est pas entré dans une église et il n'a pas adoré la croix. Pourquoi définir cette fuite du temps de cette façon? Ce que le poète veut dire, c'est que le temps n'existait plus pour lui parce que ce qui fait le temps, ce qui marque le temps, ce qui scande le temps, c'est le calendrier liturgique, le calendrier qui définit les périodes de l'année. Voilà. Oublier Dieu, c'est ne pas vivre le temps puisque le calendrier liturgique marque une participation à la vie du Christ. Et la preuve que c'est bien ce que l'auteur veut nous dire, c'est que Perceval retrouve la conscience de soi et la pensée de Dieu au sommet de l'année liturgique, au moment le plus important, hein, le Vendredi Saint, et dans la période qui va du Vendredi Saint au dimanche de Pâques, de la Passion du Christ à la Résurrection, au moment qui donne son sens, qui définit la foi chrétienne, le moment sans lequel tout s'écroule et rien n'existe. Et lorsque le poète nous dit « cinq fois passa avril et mai », évidemment, c'est le retour du printemps, c'est le renouveau, et donc le nouveau début de l'année. Vous savez qu'il y a eu une période du Moyen-Âge, celle-là, où l'année civile, en somme, commençait à Pâques. L'année religieuse, elle, a toujours commencé le premier dimanche de l'Avent. Mais l'année civile commençait à Pâques. Alors, il y a ça. Et en ce sens, c'est une sorte de définition laïque, si je puis dire. Mais en même temps, avril et mai, quelle que soit la date de Pâques, correspondent au renouveau qui suit la résurrection du Christ, correspond au temps qui va de Pâques à la Pentecôte, hein, le temps qui correspond dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint. Et c'est à ce moment-là, où chaque fois l'Esprit aurait dû l'inspirer, il aurait dû se tourner à nouveau vers Dieu, qu'il ne le faisait pas. Mais, bien qu'il ait tout oublié, et bien qu'il ait oublié Dieu, il lui est resté une chose. Ce qu'il avait et ce qui lui est resté, c'est ce qu'il avait vraiment désiré. Ce qu'il désirait vraiment, ce n'était pas voir le Graal, il ne savait pas que le Graal existait, il n'a pas posé la question, etc. Ce qu'il désirait au départ, c'était devenir chevalier. Il a fini par le devenir. Et ça, ça lui est resté. Il avait beau avoir tout perdu et avoir oublié l'essentiel, la seule chose qui compte vraiment, celle-là qui avait été ce qui avait compté vraiment et ce qui comptait seul pour lui, ça lui est resté. Ce qu'il avait tant désiré, ce qui avait été le premier objet de sa quête, ce qui avait été son grand apprentissage, sa grande initiation, cela, il l'a encore. Il a encore la chevalerie et il multiplie les aventures et les exploits plus qu'il ne l'a jamais fait. Vous voyez ? Les vers suivants, enfin, on ne dira pas tout le passage comme ça. Donc, moi, je m'arrête à « Tout ainsi, cinq ans demeura. Pour ce, ne relaissait-il mis à requérir chevalerie, mais pour autant, il ne laissait pas d'être à la recherche d'actes de chevalerie, que les étranges aventures, les félonesses et les dures allaient quérant, et s'en trouva tant, et il en trouva tellement, tant que Motte-bien s'y éprouva, non que n'emprisse chose si grief, dont ils ne venissent bien à chef. » Neuf chevaliers, et il n'y eut d'entreprise si dure dont il ne sut venir à bout. Et au bout des cinq années, il envoya prisonnier à la cour du roi Arthur 60 chevaliers de valeur. Ainsi les cinq ans employa, non que de Dieu ne l'y souvint. On y revient à la fin. Hein. Pendant cinq ans, il ne s'est pas souvenu de Dieu, il n'est pas entré dans une église. Cela a été développé. On développe ses exploits chevaleresques. Et puis on revient. Oui, il a envoyé 60 chevaliers à la cour du roi Arthur. Hein, et ce qui fait une moyenne d'un par mois à peu près. Hein, tout simplement, c'est pas mal. Et enfin, ce qui laisse quand même beaucoup de temps pour l'errance. Et mais à la fin, on y revient, il ne s'est pas souvenu de Dieu. Autrement dit, ainsi les cinq employa, non que de Dieu ne lui souvint. Il fut le travail de ces cinq années sans que jamais Dieu lui revint en mémoire. Autrement dit, ses exploits chevaleresques sont nuls et non avenus. À peine proclamés, ils sont comme gommés, puisqu'ils occupent un temps qui n'existe pas, un temps qui n'a pas de structure et qui n'a pas de sens. Donc, au bout, donc, pendant ces 5 ans, son état de chevalier qu'il avait tant désiré ne lui a servi à rien. Il n'y a eu aucune progression. C'est comme si le temps n'existait pas. Et c'est ce qui arrive. J'avais mon professeur de philosophie disait, c'était pourtant, c'était pas dans une école religieuse, c'était dans un lycée. Vraiment, il nous disait, après la mort, on a toujours, tout le monde, on a tout ce qu'on a désiré en ce monde. Et alors, si on a désiré des choses périssables, si on a désiré être riche, pas être premier président de la République ou simplement professeur au Collège de France ou être académicien ou avoir la Légion d'honneur, ou que sais-je, n'est-ce pas ? Eh bien, on l'a. Mais on n'a rien d'autre. On a tout ce qu'on a demandé, mais rien d'autre. On l'a, mais on n'a que cela. Et ça paraît évidemment dérisoire, et c'est ce que nous appelons l'enfer. Mais si on a désiré quelque chose d'infini, quelque chose de sans limite, si on a désiré l'amour infini de Dieu, on l'a aussi. Et c'est ce qu'on appelle le paradis. Eh bien, Perceval, pendant ces 5 années, connaît l'enfer de mon professeur de philosophie, si je puis dire. Il a exactement ce qu'il a désiré, mais il n'a que cela, et c'est le fond de la déréliction. Et ça, il ne faudra pas l'oublier quand, un peu plus tard, à 20 secours, nous nous interrogerons sur la véritable place de la chevalerie dans les romans du Graal ou dans certains de ces romans du Graal, et si elle est aussi uniformément valorisée qu'on peut le penser. Donc, au bout de ces 5 ans, donc pendant lesquels cet état de chevalier qu'il avait tant désiré n'y a servi à rien, il rencontre des chevaliers et des dames. Il rencontre des chevaliers et des dames comme au début du roman. Mais enfin, au début du roman, il rencontre que des chevaliers qui cherchent des dames, enfin, ou d'autres chevaliers et des dames. Enfin bon, c'est toujours le même milieu, si je puis dire. Mais il les rencontre dans une situation toute différente. Non pas des chevaliers dans tout l'éclat de leurs armes effrayantes, resplendissantes et désirables, ces armes bruyantes, et souvent ils cognent leurs armes au tronc des chaînes et des charmes, et ces armes qui resplendissent. Des chevaliers revêtus de ces armes admirables et poursuivant d'autres chevaliers et des dames que ces chevaliers ont peut-être enlevés, une situation qui laisse deviner quelque aventure troublante où les violences du combat se mêlent aux violences de l'amour. Cette fois, c'est tout différent. Les dames sont plus nombreuses que les chevaliers, peut-être parce que les dames ont toujours été plus dévotes que les messieurs, et tous vont à pied en langes et déchaussiés, vêtus de laine, donc de vêtements de dessous, à la fois des vêtements de dessous et des vêtements de dessous qui grattent, et déchaussés. Et c'est lui, Perceval, qui cette fois est tout armé. C'est le rêve de son départ. C'était cela qu'il voulait. Les autres sont à pied, habillés n'importe comment, et lui, il est revêtu de toutes ses armes sur son cheval. Et c'est lui dont les autres s'étonnent qu'il soit armé, comme lui s'étonnait au début de voir ses chevaliers revêtus de leurs armures. Mais cette fois-là, ses interlocuteurs, ne s'étonnent pas par ignorance. Ce n'est pas du tout qu'ils ignorent ce qu'est un chevalier, comme lui l'ignorait au début du roman. Ils s'étonnent par sagesse et par savoir. Ils savent, eux, qu'être chevalier, c'est très bien. Ce sont eux-mêmes des chevaliers, n'est-ce pas, ceux qu'ils rencontrent. C'est très bien, mais ce n'est pas le but ultime de la vie. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus admirable dans l'univers. Et ce n'est pas le destin ultime de chacun. Eux qui sont des chevaliers et des dames, ils ont renoncé à leurs chevaux, à leur armure, aux vêtements conformes à leur rang, pour se rendre à pied non pas au bout du monde où se trouve l'aventure, non pas en marchant ou en chevauchant indéfiniment au fond des forêts à la recherche de ce château du Graal qui n'est jamais au même endroit, mais tout près. Ils vont dans un lieu caché, certes, dans la forêt, mais un lieu tout proche où l'ermite les attendait pour les confesser. Et ils reprochent à Perceval doucement, mais comme une faute grave, de porter les armes le jour la mort du Christ. Mais, je le lis dans la traduction de Charles Mellat pour gagner du temps, l'un des trois chevaliers l'arrête et lui dit « Mon doux et cher Seigneur, ne croyez-vous donc pas en Jésus-Christ qui a écrit la loi nouvelle pour la donner aux chrétiens ? Il n'est en vérité ni juste ni bien, c'est même une faute grave de porter les armes le jour de la mort du Christ. Et lui qui n'avait plus la moindre notion du jour, ni de l'heure, ni de la saison, tant il avait le cœur troublé, de répondre « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Comme au début du roman, Perceval questionne. Les chevaliers lui posaient une question et lui répondaient par d'autres questions. De sorte que ne répondant jamais à la question qu'on lui posait, ne rendant jamais le simple service de répondre à la question qu'on lui posait, il n'avait jamais la réponse à la sienne et la conversation se prolongeait indéfiniment. Mais là, c'est lui qui pose une question. Il pose une question. Il cessait déjà de poser des questions. Il pose à nouveau une question. Mais cette question est « Quel jour sommes-nous ?» Il revient à lui en posant une question qui le ramène dans le temps. Ce temps qu'il a oublié pendant 5 ans et ce temps qui est le temps de la liturgie, le temps du salut. Et on lui répond non seulement en lui disant que c'est le vendredi à Auré, le jour que l'on doit à Auré, la crouée et ses péchés pleurés. C'est le vendredi saint, le jour où l'on doit adorer la croix et pleurer ses péchés. Mais en lui faisant, je lui fais un résumé de plus de 30 vers de l'incarnation, de la passion du Christ, de la rédemption, une sorte de paraphrase développée de la partie du credo consacrée au Fils, si on veut. Comme si ses interlocuteurs comprenaient à sa question son oubli de Dieu, et la comprennent forcément, et jugeaient utile, et cela l'est en effet, puisqu'il a tout oublié, de lui rappeler les fondements de la foi chrétienne. Il faut lui rappeler les fondements de la foi chrétienne. Il faut lui rappeler ce que c'est que l'incarnation, la passion du Christ, ce que c'est que la rédemption. C'est-à-dire que Perceval a régressé. Perceval est revenu au point où il en était quand il était chez sa mère dans la gaste forêt. Et bien pire même, parce qu'alors, il avait une idée de Dieu, même si cette idée était naïve et trompeuse. Il avait une idée de Dieu, puisque en voyant les chevaliers, il les prenait pour des anges, et il se demandait même si ce n'était pas Dieu lui-même. « Est-ce que vous êtes Dieu ?» demandait-il aux chevaliers. « Non, certainement pas, mais vous êtes plus beau que Dieu. » Alors, l'idée était fausse, l'idée de Dieu était fausse, pour s'imaginer qu'un chevalier dans son armure brillante peut être plus beau que Dieu, mais il savait que les anges sont les plus belles créatures qui existent après Dieu et que Dieu est plus beau que tout. Voilà. Ça, il le savait. Là, il ne sait plus rien. Et la régression est totale, alors même que sa progression dans la valeur chevaleresque a été confirmé. Il a chevauché pendant 5 ans, ça ne lui a servi à rien, non pedum passibus, etc. Il a été un chevalier admirable, un vainqueur de tous ses adversaires pendant 5 ans, ça ne lui a servi à rien, il n'a fait que régresser. Et alors à ce moment-là, nouvelle question de Perceval, nouvelle réponse. D'où venez-vous ? De chez un ermite qui habite cette forêt. Qu'alliez-vous faire là ? Qu'avez-vous demandé ? Que cherchiez-vous ? Nous lui avons demandé conseil pour nos péchés et nous nous sommes confessés, lui répond-on. Perceval pleure alors et demande quel sentier et quel chemin il doit suivre pour parvenir auprès de l'ermite à qui il veut parler. Et le retour à la fois à la conscience, à la conscience psychologique et à la conscience morale, pourrait-on dire, fait de rentrer en soi-même, se marque par ces larmes sur lesquelles l'attention avait été attirée il y a longtemps par notre maître Jean-Charles Payen, dont j'ai déjà parlé de sa grande thèse sur le motif du repentir dans la littérature française du XIIe siècle. Et j'avais rappelé à cette occasion l'évolution de la doctrine de la pénitence, mais un des traits qui la marque et auquel Jean-Charles Payen attribue à juste titre une très grande importance, c'est que au moment où l'affinement de la psychologie, en somme, s'accompagne d'une recherche de la responsabilité personnelle et de la nécessité de l'introspection conduisant à la confession individuelle, on est attentif justement à éviter le formalisme et on considère qu'il faut vérifier que le repentir est réel. Et quelle est la marque du repentir ? Ce sont les larmes. Alors, donc, si on se confesse, si on pleure pas, pas d'absolution. Non, peut-être pas à ce point, et on pleurait probablement plus facilement au Moyen-Âge que maintenant. Mais enfin, bon. Il faut avoir le don des larmes, et c'était vraiment, par exemple, Saint Louis, qui n'était pas encore saint, mais enfin qui allait le devenir, et qui était donc fort dévot et très scrupuleux, hein, Saint Louis était réellement inquiet pour son âme parce qu'il n'avait pas le don des larmes. C'est-à-dire, il se repentait, il n'arrivait pas à pleurer. Et il interrogeait son directeur de conscience, hein, sur ce point. Et il y a, bon, des contes, il y a tout le monde connaît ce conte, d'ailleurs, que j'ai réécrit ailleurs, le conte du chevalier au barisel, hein, du chevalier au cœur dur, cruel, méchant, qui se confesse par dérision. Donc il n'a pas de vrai repentir, qui refuse toutes les pénitences, jusqu'à ce que l'ermite à qui il se confesse lui dit « Allez juste remplir mon petit tonneau à la fontaine », il dit « Ça, je veux bien », et l'eau n'entre pas dans le tonneau, et alors il va plus loin, une rivière, un étang, hein, et il se met à courir le monde, hagard, comme Perceval, pendant des années, et au bout de plusieurs années, un jour, et il s'arrête à toutes les mares, à toutes les flaques, partout, il essaye de remplir ce petit tonneau, il n'y arrive pas. Et un jour, il rentre en lui-même, prend conscience de ses crimes, et, effondré devant ce qu'il est, verse une larme. Et cette larme, par hasard, entre par la bombe dans le petit tonneau qui se trouve rempli qui déborde. Bon. Alors, tout ça pour dire, pardon, cette digression sur des choses si connues, encore une fois, mais tout ça pour dire que lorsque Perceval pleure, c'est le signe à la fois de son repentir et du fait qu'il est redevenu lui-même et qu'il a de nouveau cette conscience de lui-même. Et à ce moment-là, il va voir l'ermite et toujours avec ce mouvement que nous avions dégagé dès le début, ce mouvement défini avant Pascal par Saint Bernard dans des Diligendo Deo, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. Ce que nous avons vu, je n'ai plus la phrase exacte, Saint Bernard écrit dans ses propres lignes et qui conclut un développement sur le fait qu'on ne désire Dieu que parce que Dieu nous donne le désir de le désirer et qu'il y a une prévenance de Dieu qui agit le premier. Donc, cette prévenance de Dieu se manifeste à ce moment-là et la suite, aller trouver l'ermite, se confesser, recevoir l'absolution et la communion dimanche Pâques, va en quelque sorte de soi. Et la révélation qui accompagne tout cela, la véritable révélation du Graal, lui est naturellement lié. Alors, non seulement dans ce mouvement « D'où venez-vous chez un ermite »« Qu'alliez-vous faire »« Qu'allez-vous vous demander »« Que cherchiez-vous »« Nous avons demandé conseil pour nos péchés, nous sommes confessés. » Non seulement il y a là un écho inversé de la scène initiale du roman, et inversé jusque dans le détail. Au début, les chevaliers poursuivent des chevaliers et des dames et demandent à Perceval où ils doivent aller. Et là, Perceval leur demande d'où ils viennent pour y aller aussi. Mais il faut prendre garde à la formulation même de la question de Perceval après qu'il a entendu que ses interlocuteurs viennent de chez l'ermite. Ce sont les vers, vous les avez, 6233-6234. « Port Dieu, Seigneur, là que feuilliste, que demandaste, que cueilliste ? Au nom de Dieu, Seigneur, qu'alliez-vous faire là ? Qu'avez-vous demandé ? Que cherchiez-vous ? » Voilà. La question de Perceval consiste à demander quelles questions ses interlocuteurs ont posées. Et lui, qui n'a pas posé de questions devant le cortège du Graal, il va maintenant pour lui de soi que face à quelqu'un, on pose une question. Et lui, non seulement il pose une question à ceux qu'il rencontre, mais il leur demande quelles questions ils ont posées à celui qu'ils ont rencontré. Voilà. Il pourrait. On lui dit, nous venons de chez un ermite. Bon, et pendant 5 ans, il a tout oublié, c'est plus que ça qu'un ermite, il ne sait plus rien du tout. Il pourrait dire, quel ermite, je ne sais pas. Voilà. Mais pas, ou même, que vous a-t-il dit ? Mais non. Quelle question lui avez-vous pensé ? Qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Et on voit en plus que la gradation en apparence inversée de ses propres questions, c'est la vraie gradation qu'il découvre enfin. Qu'alliez-vous faire ? Non pas que cherchiez-vous, qu'avez-vous demandé, qu'alliez-vous faire là ? Mais qu'alliez-vous faire là ? Qu'avez-vous demandé ? Que cherchiez-vous ? On s'élève. On pourrait croire qu'on commence d'abord par chercher, que quand on cherche, on demande, et que quand on a la réponse, on peut agir, on peut faire quelque chose. Mais Perceval pose sa question dans l'ordre inverse. Qu'alliez-vous faire ? Qu'avez-vous demandé ? Qu'avez-vous cherché ? Et en dernier lieu, là, que cueilliste vient ce verbe quérir de la même famille que quête. Faire est général et banal, demander est plus important, être en quête, c'est le plus important. Et rappelons-nous, nous l'avons cité le passage, ce que dit saint Bernard dans ce début du 84e sermon sur le cantique, d'où est extraite la phrase qui fournit son titre à ce cours, et que je vous rappelle directement en français. C'est un grand bien que de chercher Dieu. À mon avis, parmi les biens de l'âme, il n'est dépassé par aucun autre. Quelle vertu en effet peut être attribuée à qui ne cherche pas Dieu, ou quel terme à la recherche de Dieu ? À mon sens, même quand il aura été trouvé, il ne cessera pas d'être cherché. Ce n'est pas par le mouvement des pieds, mais par les désirs que Dieu est cherché, et l'heureuse découverte, loin d'éteindre le saint désir, l'attise. La consommation de la joie consumerait-elle le désir ? Elle est bien plutôt l'huile pour lui qui est flamme. Et rappelons-nous les formulations du Diligendo Deo, auxquelles je faisais allusion il y a un instant. Preuenit, sustinet, implet, ipse facet ut desideres, ipse est quod desideras. Il prend les devants, il soutient, il comble, il est lui-même ce qui te fait désirer, il est lui-même l'objet de ton désir. Et nemo te querere valet, nisi qui prius in venerit. Personne n'est capable de te chercher s'il ne t'a pas d'abord trouvé, la formule pascalienne avant la lettre. Donc, pardon d'avoir rappelé ces passages que j'avais déjà cités, mais appliquer presque littéralement. La quête ne se mesure pas au trajet ni à la distance parcourue. La quête, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu est un don anticipé que Dieu fait de lui-même. Le chemin, le court chemin à parcourir dans la forêt jusqu'à la retraite de l'ermite est facile à suivre. Et Dieu a déjà inspiré les larmes. Il est facile à suivre puisqu'il est marqué, puisqu'il est balisé par les sortes de nœuds que les interlocuteurs de Perceval ont pris soin de faire aux rameaux pour que ceux qui les imiteront ne s'égarent pas. Au vers 6251, 6256, il y a cette notation étrange. Sire, qui allez, il voudrait s'y tenir ce sentier tout droit, ainsi comme nous sommes venus, par ces bouées épais et menus, si ce Proïs garde des reins que nous meuïsmes à nos mains, noasmes quand nous y veuîmes, teus entreseigne y feuîmes, pour ce que nus ni esgara, qui vers le saint ermite alla. Donc il demande le chemin. Monseigneur, si on voulait y aller, il suffirait de suivre tout droit ce sentier par où nous sommes venus, à travers ces bois denses et épais, et de prêter attention aux branchages, traduit Charles Mellat, reins sont les rameaux, que nous avons de nos propres mains noués quand nous y sommes allés, comme autant de signes que nous avons laissés pour que nul ne s'égare en se rendant auprès du Saint-Ermite. Donc cette indication, s'attarder tellement sur cette indication, tellement pratique, il suffisait de dire vous allez tout droit, et puis vous allez tout droit et au gros chêne vous tournez à droite, n'importe quoi, n'est-ce pas bon. Mais cette attention de ceux qui sont allés se confesser auprès de l'ermite, de permettre à d'autres de suivre ce même chemin du salut. Et je disais, reins, ce ne sont pas exactement des branchages, c'est pas difficile. Reins, ce sont les rameaux, et ce sont les rameaux de l'année. Les jeunes rameaux encore verts. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours sur la poésie comme récit, ou il y a quelques années, au cours sur nature et poésie au Moyen-Âge, nous avions beaucoup insisté là-dessus à propos des strophes printanières des troubadours et sur le rôle que joue dans la poésie des troubadours ce rameau de l'année. Pas seulement les brillants, mais le rameau de l'année. Et le rameau de l'année parce que c'est le renouveau du temps de Pâques, c'est le printemps et c'est encore le début du printemps. Il y a ces petites pousses, mais il n'y a pas encore beaucoup de feuilles, de sorte qu'elles sont faciles à attacher et qu'il est facile de les voir ainsi attachées. Le chemin qui mène au salut est lié même au regard de la saison au moment de Pâques. Au moment de la Semaine Sainte. Donc, le désir de Dieu est un désir, est un don anticipé, et ensuite il est facile de suivre ce chemin bien balisé, et le désir de Dieu ne s'éteint pas quand Dieu a été trouvé. En un sens, les révélations de l'oncle ermite à Perceval, la confession de Perceval, sa communion, sa conversion sont l'aboutissement de sa quête. Et en un autre sens, elles n'en sont qu'une étape. L'histoire est sans fin. Elles sont l'aboutissement de sa quête parce que pour deux raisons. D'abord parce que une fois qu'il a retrouvé Dieu, une fois qu'il s'est confessé et qu'il a communié, qu'est-ce qu'il peut lui arriver de mieux? C'est comme le paradoxe du début de la quête du Saint Graal du roman. Le Graal est apparu le jour de la Pentecôte et les a nourris de tout ce qu'ils désiraient. Que demander de plus? Qu'est-ce qu'ils vont chercher de plus? Donc il y a ce paradoxe, une quête à la fois nécessaire et inutile. C'est un aboutissement en ce sens aussi que l'oncle ermite, en fait, lui dit tout. Et je vous ai dit qu'il y a eu des articles ou des travaux pour dire que Chrétien III n'arrive pas à terminer son roman parce que, après la révélation de l'oncle ermite, la fin ne peut être que répétitive ou raconter quelque chose qu'on sait déjà qu'on attend déjà. Bon, c'est vrai ou pas vrai, c'est peut-être un raisonnement anachronique. Mais enfin, il est vrai qu'il n'y a plus rien à apprendre après ce qu'a dit l'oncle ermite. Mais en un autre sens, la confession, la communion, la conversion de Perceval ne sont qu'une étape. C'était qu'une étape parce que tout de même, l'histoire n'est pas finie, il n'a pas trouvé le château du Graal, il repart dans son cheminement, le poète nous promet que nous le retrouverons, et même s'il ne tient pas sa promesse. Et elles n'en sont qu'une étape parce que c'est bien beau de se confesser de communier à Pâques, mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'on est tout de suite au ciel. Et ainsi, les questions de Perceval, l'ordre de ces questions, montrent que dès lors qu'on lui a rappelé la date et la signification du Vendredi Saint, il est en état de comprendre enfin ce qu'est la quête du Graal, de comprendre ce qui est attendu de lui, alors que les questions qu'il posait au chevalier au début du roman montraient qu'il ne comprenait rien à rien. Et que, du coup, la conséquence qu'il a tirée de ce que lui ont dit les chevaliers au début du roman, cette conséquence ne mène elle-même nulle part, d'une certaine façon, au moins à elle seule, puisqu'elle est indirectement cause de son silence lié à la bonne éducation reçue chez Gornement, et puisqu'elle l'entraîne cette série d'exploits totalement inutiles qu'il a accompli pendant 5 ans. Et vraiment, je crois que le sens du roman se joue dans ce passage dont nous venons de lire le début et qui se poursuit, mais dont vous connaissez la suite. Il se joue au moment où l'errance chevaleresque cède la place à ce pèlerinage tout proche qui n'est que la concrétisation de la conversion du cœur qu'appelle le Vendredi Saint, la conversion qu'appelle Escindite, Corda Vestra et non Vestimenta Vestra, comme dit le prophète Joël, dans le latin de la Vulgate de Saint Jérôme, qui est tellement fidèle, n'est-ce pas, à son modèle hébreu qu'il commet des solécismes qui sont ensuite passés dans le latin. Ah, vous savez que si vous mettez et non dans vos thèmes latins, on vous enlèvera quelque chose au lieu de mettre nec. Donc, l'important n'est pas l'espace, mais le temps liturgique, le temps de la conversion, le temps du salut. Et dans ce temps, on chemine, mais ce n'est pas la peine de cheminer loin, on va à un ermitage tout proche, voilà. On matérialise seulement cette démarche du cœur pour en recueillir les fruits. Alors, un autre roman du Graal offre le récit de pèlerinage, et cette fois de véritable pèlerinage, explicitement désigné sous ce nom, pèlerinage qui ne se confondent pas avec la quête du Graal et qui lui sont liés. Un pèlerinage, enfin, un premier pèlerinage qui est mystérieusement lié à la quête du Graal, mais non pas de façon claire, logique et explicite. De sorte que le lien est à la fois serré et obscur. Et un autre qui est un pèlerinage au château du Graal une fois que la quête est achevée, et qui est donc lui aussi étroitement lié à la quête du Graal, puisque c'est un pèlerinage au château du Graal, mais qui en est en même temps distinct, hein, et qui montre que ce n'est pas la même chose. Donc c'est le Au livre du Graal, Perles Vos. Donc ce roman dont j'ai déjà parlé, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, qui se désigne lui-même sous le titre de Au livre du Graal, mais comme l'a remarqué très justement Jean-René Valette, plusieurs romans du Graal se désignent comme Au livre du Graal, et un Au livre du Graal, c'est une sorte de genre littéraire, n'est-ce pas ? Bon. Et alors, le plus souvent, on appelle ce roman sous le Perles Vos, du nom qui est celui de Perceval dans ce roman, celui qui perd les vallées parce qu'il a perdu l'héritage de son père, Julien le Gros, des Vaux de Camalot. Il a été édité et traduit admirablement par Armand Strubel dans la collection Lettres gothiques, comme vous savez. Et alors, j'en revendique l'entière responsabilité. J'ai demandé à Armand Strubel, qui a eu la bonté d'accepter, de le publier sous le titre « Le haut livre du Graal », qui est seul à apparaître sur la couverture, Perles Vos apparaissant sur la page de titre, parce que je dois dire que ces livres, il ne suffit pas de les éditer, il faut aussi les vendre. C'est pas que j'y gagne quelque chose, mais enfin, vous voyez, le livre de poche a l'habitude d'éditer Mary Higgins Clark, les fiches cuisines d'elle, ou des choses comme ça, ce qui sont plus faciles à vendre que des ouvrages de littérature médiévale bilingues. Enfin, donc, il faut que je fasse un petit effort, tout de même, ben, si je veux que la collection vive. Les volumes de Lettres gothiques sont tirés à beaucoup d'exemplaires. Sont tirés généralement autour de 10 000, quelquefois 5 000 seulement, mais enfin, dans cet ordre d'idées, et ce qui est énorme par rapport à ce que, aux habitudes de la profession. Donc, il faut faire un effort, et le Graal, ça marche mieux que par exemple, le haut livre du Graal, on se dit que ça attirait plus que, je me suis dit, que Perles Vos. Bon, donc, je ne regrette rien, mais je dois préciser les choses. Bon. Donc, il y a donc ces deux pèlerinages dans Perles Vos, et les deux fois, le pèlerin est, de façon significative, le roi Arthur lui-même. Et de façon significative, parce que Arthur est au centre de tous ces romans, comme il est au centre de la légende du Graal elle-même, puisque cette légende du Graal est liée au destin du royaume de l'Ogre. Et l'aboutissement de la quête du Graal marque aussi la fin des aventures du royaume de l'Ogre et précède de peu son écroulement. Alors, c'est à la cour du roi, de la cour du roi Arthur que doit partir la quête du Graal, c'est à la cour du roi Arthur que se trouvent ceux qui doivent achever cette quête. Donc ça, dans tous les romans. Mais en même temps, le roi Arthur est en marge de la légende du Graal, puisque avant la mort le roi Arthur, avant que l'éclairage se concentre sur lui au moment de sa chute, de sa mort, il n'est jamais un protagoniste. Le roi Arthur, et d'une façon générale, le roi Arthur, garant des valeurs de la table ronde et de son royaume, ne peut pas être juge et partie. Il est l'arbitre, et il n'est jamais donc le héros du roman, sinon dans des romans relativement tardifs ou marginaux, ou des romans de ses enfances. Par exemple, il y a, mais c'est à la fin du Moyen-Âge, un roman assez intéressant qui s'appelle « Le chevalier du Papegaut », dont le héros est le roi Arthur, mais Arthur jeune, Arthur qui n'est pas encore le roi Arthur. Et dans tous ces romans du Graal, le roi Arthur est le spectateur d'une histoire qui le concerne au premier chef, mais sur laquelle il n'a guère de prise. Et en ce sens, il est tout désigné pour se glisser dans le personnage du pèlerin. En ce sens, il est logique que ce soit lui, le pèlerin de ces pèlerinages en marge de la quête du Graal, différent de la quête du Graal, parce que le pèlerin n'ouvre pas une route nouvelle. Le pèlerin met ses pas dans celle qui a été tracée pour le conduire au salut. Et c'est en ce sens que Perceval, allant trouver l'oncle ermite, est un pèlerin. Il n'est pas le premier. Il ne trouve pas l'oncle ermite comme il rencontre les chevaliers qu'il combat comme il rencontre le château du Graal. Il doit suivre les indications qu'on lui donne. Il doit suivre ses rameaux noués. Le pèlerin n'est pas le premier. La voie nouvelle est celle qu'ouvre la quête du Graal, ou au moins la première apparition du Graal. Une fois qu'elle est découverte, et à plus forte raison, une fois qu'elle est frayée, vient le temps du pèlerinage. Cela est vrai du second pèlerinage du roman. Quand le roi Arthur se rend en pèlerinage au château du Graal auprès de Perceval, après que Perceval a achevé les aventures. Mais le roman achevé les aventures, le premier volet, ensuite il continue à évangéliser par le fer, par le baptême du sang, si je puis dire, les îles bretonnes, n'est-ce pas, avec la cruauté inimaginable qui est celle de ce roman. Mais le roman s'ouvre sur un premier pèlerinage plus déconcertant, qui est celui du roi Arthur à la chapelle Saint-Augustin. Le contexte et l'esprit sont très différents de ceux du conte du Graal, et d'abord parce que Pérez Vos est un roman, je le disais à l'instant, sanglant et même sauvage, qui n'a aucune réticence face à la violence chevaleresque et qui voit au contraire le moyen le plus naturel d'une évangélisation qu'il conçoit à la manière forte. Ce pèlerinage initial mérite cependant d'être pris en considération. D'abord parce qu'il rend dès l'abord attentif à des préoccupations spirituelles et même théologiques qui sont extrêmement présentes dans ce roman si bizarre, à côté de la violence obsessionnelle et sanguinaire. Et ensuite parce qu'il imbrique de façon inextricable, mais avec une sorte de délibération, le pèlerinage et la quête, mais une quête qui n'est pas en elle-même celle du Graal. Nous allons voir que le pèlerinage se conclut, se poursuit par une sorte de brève quête ou une brève série d'aventures du roi Arthur, comme si libéré, guéri, voire par ce pèlerinage, eh bien, il y avait ce premier témoignage de sa guérison et de sa valeur. Mais l'imbrication entre pèlerinage et quête aventureuse et chevaleresque est telle que on a l'impression que le roman cherche à les justifier l'un par l'autre ou l'une par l'autre. Bon, le pèlerinage et la quête. Le haut livre du Graal, donc le Pérez Vos, j'appellerai désormais le Pérez Vos. Je disais, je me suis mal exprimé il y a un instant en disant qu'un haut livre du Graal, c'est un genre littéraire. Genre littéraire n'est pas tellement adapté. C'est plutôt que ces romans ont le sentiment, semble-t-il, chacun de ces romans a le sentiment de se définir par l'histoire commune qu'il relate, plus que par son individualité propre. Un peu comme un évangile. Un évangile, ce n'est pas vraiment un genre littéraire, mais c'est un texte qui raconte une histoire qui est commune à d'autres textes, ou qui est commune à tous. Bref, le haut livre du Graal Perlesvos consacre toute sa première branche à une maladie du roi Arthur, à la mélancolie du roi Arthur et à sa guérison à la suite de son pèlerinage. Le roman compte 11 branches, mais de taille extrêmement inégale, qui vont en croissant, qui deviennent gigantesques à partir de la 7e, ce qui pose enfin des problèmes de toutes sortes. Mais lisez l'admirable introduction d'Armand Strubel et vous serez fixé. Non, c'est vrai. Le roman s'ouvre sur sur une formule d'invocation trinitaire solennelle, à la fois théologique et doublée précisément d'un appel à la conversion. Le haut livre du Graal commence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois personnes sont une substance, et cette substance y est. Et on va qu'à lire la traduction du maître. Sont d'une seule substance, et cette substance est Dieu, et c'est de Dieu que procède le haut conte du Graal. Tous ceux qui l'entendent lire doivent en pénétrer le sens et oublier toutes les vilenies qu'ils portent dans leur cœur. Donc, une formule qui est un appel à la conversion du lecteur, oublier les vilenies qu'on a dans le cœur, mais qui est une formule théologique, non seulement par l'invocation trinitaire, mais par la précision que les trois personnes sont une seule substance et que cette substance est Dieu. Le terme même de substance est un terme scolastique, en fait. Donc après cela, une première phrase qui ancre très très fortement ce roman dans une perspective théologique et qui lui donne une coloration spirituelle très forte qui se teintera ensuite de sang. Après cela, le roman annonce qu'il va raconter l'histoire du bon chevalier, chaste et vierge de corps, hardi de cœur, et raconter l'histoire des malheurs causés par son silence, faute d'avoir prononcé quelques paroles, et l'histoire de la joie que la réparation qu'il a faite de sa faute a apportée ensuite aux îles bretonnes. Il rappelle en quelques mots l'histoire de Joseph d'Arimathie, il retrace le lignage de Perlesvos qui le rattache à Joseph, et il passe sans transition au règne du roi Arthur, qui a fait progresser plus qu'aucune autre la loi de Jésus-Christ jusqu'au moment où lui est venue une volontés délaiance, une sorte d'abouli, le fait qu'il n'avait de goût à rien et de procrastination, de repousser, délayer l'exercice de sa volonté. Et c'est à ce moment-là que le récit commence vraiment. Et le récit commence par le pèlerinage qui doit guérir le roi Arthur de sa volonté d'alliance. Mais ce pèlerinage, nous nous pencherons sur lui, non pas, encore une fois, j'en suis désolé, la semaine prochaine, où j'expirai mes péchés sur mon lit de douleur, mais la semaine suivante, le 12. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.